et vous écoutez France Culture. Les mystères absurdes des forces étranges de l'existence. David Lynch, Mark Frost. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. D'absurdes mystères que Mauvais Genre vous convie ce soir à sonder et à partager, et ce grâce à la savante exégèse de la saison 3 de Twin Peaks que nous délivrera Paco Mthielman, chronique polar ensuite avec Élise Lépine qui nous parlera de récentes publications signées Yana Wagner et Jacques Miller. On fermera le banc avec Sixtine Audebert et son gang de motards suisses. Alors bienvenue au sein des forces étranges de l'existence, bienvenue à Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission préférée qui ce soir balancera entre, bien je dirais, les insondables mystères de l'existence et puis je dirais des réjouissances un peu plus concrètes et un peu plus directes. Je serai en compagnie de Paco Mthielman.
Hello.
Hello. Alors ben voilà, ça c'est le mot, c'est le magic word for tonight is hello. On vous dira tout à l'heure pourquoi. On dit quelques mots, Paco, sur la tournée des 100 rois, donc le livre que vous avez publié récemment au plus sur les gnostiques.
Oui, alors pour les auditeurs qui ont envie de voir ma gueule, je serai le 17 octobre à Nîmes, au zoo de Anima, et je serai le 19 et le 20 à Bordeaux au festival le Fifib, puisque j'ai un Fifib. Programme.
C'est le Fifigro en Belgique.
Voilà. Non, c'est pas le Fifib alors. Donc c'est un nom comme ça. Enfin, pourquoi le festival de films à Bordeaux où on m'a donné une espèce de petite programmation spéciale sans roi, où il y aura 4 films qui sont plus ou moins liés à cette thématique-là, Mélancolia, God Told Me To de Larry Cohen, Cœur, Gorge, Ventre de Maud Alpi, et puis La Cabane dans les bois de Drew Goddard. Ça, c'est le 19 et le 20, et puis ensuite le 27 à Marseille, mais ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire. À retrouver tous ces renseignements, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et donc, je rappelle que vous avez publié au PUF La Victoire des 100 rois.
Absolutely.
Qu'il faut lire. Élise Lépine, comment va-t-elle?
Elle va très bien.
Quoi de neuf?
Des polars.
À part que vous ayez changé de studio, d'appartement.
j'ai donné mes livres et j'ai déménagé. Ah, et ça, j'en ai de nouveaux, puisque c'est bien sûr, ça s'enchaîne et le cycle des livres ne s'interrompt jamais.
Très bien. Bah, écoutez, ce soir avec vous, évidemment, coup de phare sur l'actualité noire. Bonsoir, Sixtine Audebert.
Bonsoir, François.
Petite actualité personnelle.
Et oui, pendant que certains étaient la semaine dernière à la Fashion Week, moi j'assistais à l'Underground Fashion Show de Luizzo Vega, un artiste-performeur plus connu comme le fils caché de Madonna, et qui a diffusé des extraits donc de son fashion movie Dracula is not dead au point éphémère, et donc il y a une espèce de film amateur petit budget comme on les aime, avec des performeurs à la fois du monde de la mode et du monde gothique, et Dracula est une sorte d'Andy Warhol adulé au milieu d'une factory dans un monde décadent promis à une prochaine apocalypse. Voilà.
C'est bien normal.
Qui sortira le 31 octobre.
Que nous y fûmes et que vous y fûtes alors. Très bien. Tous les renseignements à retrouver sur notre site. Je signalerai quand même, puisque ce soir nous n'y sommes pas, mais ça a quand même lieu, la Nuit Blanche parisienne 2017, et je recommanderais tout particulièrement un événement qui s'appelle l'Assemblée des Culs, C-U-L-S, qui se tenait déjà depuis 19h, mais jusqu'à 3h du matin au Conservatoire National des Arts et Métiers. Je vous en lis le petit descriptif. Scène de déluge, Noé, en sauvant les animaux, a-t-il contribué à asseoir la domination humaine sur la nature et à préfigurer le désastre écologique qui s'annonce? Ça vous intéresse là, pas comme. En face, les emporte une ribambelle de cul. Seraient ceux qui se permettent de dire n'importe quoi en référence à l'expression anglo-saxonne « to speak out of your ass ». Au milieu de ces fresques, la performance orchestrée par A Constructed World explore la question du langage, qu'il soit articulé préverbal ou animal. Voilà, c'est au Conservatoire des Arts et Métiers. Et c'est notre préconisation de ce soir dans Mauvais Genre. Pour la Nuit Blanche, je signalerai également le festival Formula Bula qui est au point éphémère avec notamment l'événement demain, Helter Skelter avec Nin Antico et Simon Hanselman, à qui d'ailleurs une exposition est dédiée, puis bientôt l'exposition Blake Bollex. Voilà, c'était les recommandations événementielles de Mauvais Genre pour ce soir, et maintenant l'heure est venue pour nous d'ouvrir l'encyclopédie pratique des Mauvais Genres. On vous en dira encore beaucoup plus après. Et à quelle est la lettre ce soir, chère Céline?
Eh bien, la lettre de ce soir, c'est la lettre B comme Barrier, Hélène Barrier. Thank you.
je suis la seule Minotaure qui existe. Peut-être je rencontrerai mes semblables à un moment, un peu comme les Amazones, je ne sais pas. Et on se met dans une posture, et effectivement, une fois qu'on a le masque sur la tête, on commence à pouvoir, les acteurs diront, à rentrer dans le personnage. En buto, effectivement, on peut parler de façon un peu plus approfondie d'incarnation. Mais en tout cas, on peut commencer tout d'un coup à sentir que le corps est en train de changer. J'ai plus de muscles, j'ai plus d'épaules, j'ai plus de poils, j'ai plus de couilles. Voilà, j'ai mes cornes, j'ai mes talons. Et puis ça y est, on peut y aller. Bah, et on peut rugir et on peut commencer à galoper.
Danser le Minotaure, c'est avant tout une démarche, une façon de frapper le sol, les pieds fermement ancrés dans la terre, mais avec des cornes lourdes et puissantes sur la tête qui vous relient au ciel. Et Hélène Barrier, artiste, dessinatrice, brodeuse, sculptrice, danseuse, adepte du buto, se pose là en femme Minotaure. Elle incarne cette densité animale et sauvage, dansant aussi bien nue avec son masque et ses cornes que sous une fourrure de bête épaisse et soyeuse, ou en costume masculin lors des ateliers King qu'elle anime. Hélène Barrier s'intéresse à la question du genre, à la mythologie, aux monstres, à la nature, et elle est partie à la recherche du Minotaure il y a quelques années de cela. Car au final, que sait-on de lui ? Pas grand-chose ? Qui était-il ? À quoi ressemblait-il ? Nul ne le sait. Alors, place à l'imaginaire et au voyage fantasmagorique.
Les dents du Minotaure. Je me suis imaginé à un moment aussi à quoi ressemblait ce fameux labyrinthe. Sachant que la forme en soi du labyrinthe, c'est pas quelque chose qui me fascine plus que ça, mais je me suis vraiment demandé ce qui restait là-dedans. Peut-être ces vestiges de corps qu'il y avait à l'intérieur, ces restes de jeunes gens et de jeunes femmes que le Minotaure était censé avoir dévoré, et puis peut-être même les vestiges du Minotaure lui-même, une corne, une dent. J'ai commencé à composer ces dents que j'ai appelées donc, effectivement les dents du Minotaure, mais bon, ce sont des dents un peu plus grandes que la moyenne, qui sont en céramique et qui ont un petit côté au niveau de la couleur comme des restes volcaniques. C'est vrai que je suis allée en Grèce. Voilà, je me suis un peu baladée par là sur ces terres anciennes, sur cette mythologie. Donc j'ai fait 70 dents en céramique. J'aime bien faire les choses en nombre, en faire beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais en faire d'autres. Puis avec, il y avait des fragments d'os, il y a quelques petits os qui se baladent. Et dans l'expo, il s'avère qu'en cherchant des cailloux, parce qu'en fait j'ai fait une sorte d'île que j'ai appelée l'île au Minotaure au final, j'ai trouvé des vrais os, je pense, de... Peut-être de bœuf, ou je ne sais pas exactement quel animal c'était. Donc j'ai mélangé un peu le vrai et le faux, des vrais os, des fausses dents, des têtes de minotaures, des cailloux, des pavés. La révolution, quoi.
Et on peut imaginer une gueule de minotaure avec 70 dents ou plus, avec ses grosses dents.
Ah, j'avais pas du tout pensé à ça, mais oui, ce serait génial. Un petit côté requin blanc quand même, ou dragon. Peut-être, ça pourrait être une sorte de dragon. Oui, complètement. On peut du coup imaginer l'idée du Minotaure, c'est aussi de convoquer toutes les formes hybrides et vraiment de s'amuser avec ça et de les composer, de les recomposer pour qu'après chacun puisse s'en emparer. Donc, je m'aperçois en fait, à chaque fois que j'en parle, à quel point ça fait complètement délirer les gens, cette histoire de Minotaure. Donc je m'aperçois que, un, bon, ça va, je ne suis pas toute seule. Donc ça, quelque part, c'est rassurant. Et qu'en plus, cette histoire, elle fait écho, mais encore un mythe grec, à d'autres histoires avec d'autres personnes. Donc en fait, ce voyage avec le Minotaure, moi, ça me permet des rencontres. Ça me permet des rencontres avec des musiciens, ça me permet des rencontres avec des plasticiens, avec des tas de gens. Et on s'aperçoit qu'en fait, on adore convoquer ces monstres et se faire un petit peu peur avec, puis chercher à l'intérieur de nous à quel moment justement on devient monstrueux, ce qui a été, ce qui n'est pas mal, une forme de sauvagerie qu'on a, qui n'est pas forcément de la sauvagerie destructrice, mais qui est une façon de laisser simplement parler ses émotions.
Les L'exposition d'Hélène Barrier qui présente l'île du Minotaure et ses désormais célèbres dents s'appelle « Les iconoclastes ». Elle se tient en ce moment à la Galerie Duchamp à Yvetot, en Normandie, et ce jusqu'au 15 octobre 2017. Pour plus d'informations, allez sur le site d'Hélène Barrier, www.iconoclastes.blogspot.fr. Et par ailleurs, notez que vous pourrez découvrir des photos d'Hélène Barrier dans le numéro de la revue Persona, revue disponible en librairie et sous-titrée « De l'autre côté du miroir, les artistes vous dévoilent leur face cachée. On attend de voir à quoi ressemble la femme Minotaure quand elle traverse le miroir. » Et ce sera en novembre prochain le numéro 3 de Persona.
Merci Céline pour cette entrée. Donc Hélène Barrier de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres qui, le 12 octobre, c'est ça?
Oui.
Le 12 octobre devient un livre que l'on peut acheter en librairie.
Oui, je suis en cours d'enfantement à l'heure
voilà,
qu'il
est. Vous êtes en pleine...
En plein travail,
exactement. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même le fruit en main. Nous sommes quelques-uns à pouvoir le faire. Et j'avoue que c'est totalement fascinant. Alors, je vais pas trop en dire du bien, puisque ça va vite sembler louche et un petit peu partial. Mais
surtout
en tout
quand
cas,
on voit préface de François Angelier oui, dans le livre.
Passer évidemment l'obstacle d'une préface discutable. Ce livre est un véritable enchantement. Je vais anticiper sur les chroniques. Mais surtout, effectivement, tous ces personnages dont vous nous parlez semaine, samedi après samedi, mois après mois, année après année, et dont on a essentiellement les voix et puis une sorte d'équivalent musical donné par Laurent Polleret, là on peut les voir et les voir en acte, c'est ça, c'est-à-dire que tous les univers ont fait l'objet d'illustrations photographiques et j'avoue que la surprise et plus que cela est au rendez-vous, donc on reparlera de tout ça. Puis il y a bien sûr des petits événements
qu'on peut déjà
de ce
peut-être
grand livre.
Voilà, qu'on peut déjà peut-être annoncer. Alors il va y avoir le lancement du livre qui sera le mercredi 18 octobre à la librairie Montanlair à Paris. Alors ce sera l'occasion de retrouver un certain nombre d'artistes et surtout d'être tous bénis par mon chaman fétichiste préféré, le fétichiste de la chaussette de footballeur, Sébastien Lambeau. Et puis le dimanche 22 octobre à 15h à la Halle Saint-Pierre, donc à Paris encore, ce sera en compagnie de Noël Herp et de Karen Chessman. Et alors au programme, ce sera donc une projection des performances. Alors je vous promets un fantomas gainé dans la moiteur étouffante d'un collant. Et puis un être qui est tout autant homme que femme que cheval. C'est gratuit, mais il faut réserver vite parce que la jauge est petite et tout est sur notre site internet, bien sûr.
Merci Céline. Vous voyez, pour ceux qui désespèrent de la vie, heureusement, Céline Duchesnay. Et là, dites-moi Pacôme, si l'équivalent lynchien du Minotaure, ce serait qui? Puisqu'on a parlé de Minotaure. Et comme on va le voir, Lynch brasse les mythes.
Au milieu du labyrinthe, une figure qui serait au milieu du labyrinthe de Twin Peaks. Il y en a plusieurs. Mais mon préféré, c'est le Jumping Man. Alors, le Jumping Man qu'on voit dans Firework With Me et qui revient dans la troisième saison et qui est un être qui a un masque, mais le masque fait et son visage, qui a un masque en pointe, comme ça, et qui est habillé en rouge et qui tient un tomahawk en main. Et alors, lui, on sait absolument pas à quoi il renvoie, mais il est au centre de ce truc-là. Il est présent à chaque fois au niveau du convenience store. Ça, c'est une sorte, oui, on peut dire que c'est une sorte de Minotaure, déjà.
Très bien, ben, retrouvons le Minotaure et ses comparses au sein de l'univers de Twin Peaks, et ce, grâce à vous, Pacôme, dans Mauvais Genre. Le générique de Twin Peaks, est-il besoin de le présenter? Ça a quand même été une mélodie mondiale pendant quand même un certain nombre de mois et d'années.
Parce que ça fait recouper plusieurs éléments qui, au moment du premier Twin Peaks, 89-90, étaient à l'état émergent. Enfin, on voit l'espèce de mélange qui se joue là entre l'univers du synthé, la basse, l'espèce d'énorme basse. Et le grand lyrisme qui part de là. Donc, grosso modo, on part de quelque chose qui viendrait de la dream pop, qui se mélangerait au new age, mais qui devient une espèce de mélopée lyrique extrêmement mélancolique, la musique de Badalamenti. Et ce thème, oui, ce thème obsédant, qui s'appelle Falling, et qui renvoie à la chute évidemment des cascades, et aussi à la chute dans l'espace, comme des anges qui tombent dans l'espace, qui est une image qui revient souvent, en particulier chez Laura Palmer, la question de l'ange déchu. presque devenu un thème joyeux parce que Twin Peaks est revenu et Twin Peaks est déjà reparti. De nouveau, c'est un thème triste.
Twin Peaks reviendra, rassurez-vous, Paco. Ce générique, d'ailleurs, est assez étonnant parce qu'il commence par le petit oiseau qui est un oiseau symbolique sur lequel on peut dire quelques mots.
Le chardonnay.
Le chardonnay, hein.
C'est surtout vous, François, qui connaissez la symbolique christique du chardonnay.
Ben voilà, c'est un oiseau christique qui lève le bec vers le ciel, qui est sur un fond crépusculaire. Donc déjà, il y a une petite intention symbolique.
Il y a beaucoup d'oiseaux dans le premier Twin Peaks. Dans le Twin Peaks des années 90, il y a énormément d'oiseaux. Il y a un ménate, il y a surtout des hiboux.
Ben, il y a les hiboux.
Mais il y a une symbolique des oiseaux qui renvoie à la question aussi du langage des oiseaux, c'est-à-dire du langage par signes. Et le spectateur de Twin Peaks doit saisir les signes. C'est une obsession. Les agents du FBI doivent saisir en fait des indices qui sont des signes, qui sont plus que des indices, qui sont vraiment des symboles, qui doivent arriver à les amener le long de leurs Blue Rose Cases, des affaires rose bleues, à comprendre des choses qui se jouent entre frontières entre les mondes. Et les oiseaux, quand Dale Cooper, dans le premier Twin Peaks, dans la première saison, dit « Je n'aime pas les oiseaux », il y a une inquiétude. C'est une phrase vraiment bizarre. C'est très inquiétant. C'est comme s'il avait peur lui-même des signes et de là où il l'a emmené.
Et ensuite, c'est évidemment le cadre des deux premières saisons qu'on voit apparaître, le Great Northern Hotel, cette cascade écrasante qui tombe, mais qui tombe passionnément, on peut dire qu'il tombe de manière assez affolante. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est la fin du générique avec ces lettres vermantes bien intenses et ce ruisseau au chocolat qui est un peu fécal, qui est un peu ambigu, qui est un drôle de ruisseau qui coule lentement à la différence de la cascade.
Et même avant d'arriver sur le liquide un peu fécal qui va renvoyer en fait plus tard aussi dans Twin Peaks à toute la question de l'huile de moteur et du liquide très inquiétant qu'il y a en bas de la Black Lodge. Et qui est l'odeur de la Black Lodge ou la matière de la Black Lodge. Mais ces lettres vertes, je me souviens que c'est quasiment pas un interdit, quoi, mais c'est quelque chose de très déconseillé, même dans l'imprimerie et tout ça. Quand j'avais un fanzine quand j'étais gamin et je voulais faire le logo avec des lettres vertes, m'avait dit ne fais pas les lettres vertes. Les gens pensent que c'est des trucs des laboratoires pharmaceutiques. C'est associé à la pharmacie. Mais pour Twin Peaks, les lettres vertes.
C'est vermante, ça fait plutôt.
Oui.
Pâtisserie,
vous diriez. Oui, moi je dirais. Twin Peaks a aussi un rôle pharmaceutique, aussi un rôle de grande médecine l'âme. C'est une série pour les grands malades et c'est une série qui est obsessionnelle et qui fonctionne comme une drogue et qui en même temps, à un moment, c'est une drogue mais à un moment, on vous arrête net et puis vous êtes plongé dans l'espace et vous devez vous débrouiller avec ce que vous avez saisi, de ce que vous avez vu et après, vous en avez peut-être pour des années. Entre le Twin Peaks du début et The Return, la saison 3, il y a eu 25 ans et pendant 25 ans, Twin Peaks a continué à exister dans les cœurs, dans les réflexions, dans les livres. Les gens n'ont pas cessé de spéculer sur Twin Peaks. Quand Twin Peaks est revenu, la machine s'est emballée et aujourd'hui encore, on est encore sous le choc et on continue à produire inlassablement de l'interprétation. Et de Twin Peaks fait vivre.
Alors pourquoi parler de David Lynch aujourd'hui? D'abord parce que c'est la sortie en DVD chez Agnès B et Potemkin de David Lynch, The Art Life, avec... Bien sûr, une présentation de Paco Mthielmo.
Non, mais voilà.
Donc, on parlera
le moment
film.
Boutique. Non, mais c'est un film très important, The Art Life.
Voilà, on en parlera après Twin Peaks. Et puis, effectivement, il y a eu la diffusion de cette troisième saison. On avait promis à nos auditeurs lynchiens qu'on en parlerait. Eh bien, c'est l'occasion. Donc, dans cette émission d'aujourd'hui, le mieux, c'est peut-être, il faut toujours le faire avant d'entrer dans le dur du sujet, c'est de rafraîchir les mémoires. On peut présenter peut-être rapidement Twin Peaks, l'histoire de cette série, qui d'ailleurs se revoit quand on la revoit aujourd'hui, puisqu'on bénéficie d'un magnifique coffret Blu-ray entièrement remasterisé, est toujours aussi magnétique, aussi fascinante, vertigineuse. Enfin, on pourrait multiplier les substantifs à l'infini. Le point d'interrogation ne s'est pas dissous et c'est toujours une énigme.
Ouais. Alors, le pitch de départ du premier Twin Peaks, hein, pas la saison 3, mais du tout premier Twin Peaks, c'est la découverte sur la plage de Twin Peaks du corps de Laura Palmer, une adolescente de 17 ans, morte et emballée dans du papier plastique. Et arrive dans la ville l'agent Dale Cooper, l'agent du FBI Dale Cooper, qui à base de méthodes extrêmement non orthodoxes, extrêmement hétérodoxes, va résoudre l'enquête concernant la mort de Laura Palmer. Ensuite de quoi, l'arrivée dans la ville d'un de ses de son ancien supérieur hiérarchique, un des anciens supérieurs hiérarchiques, puisque le supérieur hiérarchique principal est Gordon Cole, mais Wyndham Earl, ils ont un agent pour lequel il travaillait, va le bloquer dans la ville, va le laisser en ville, et il va y avoir une espèce de quête des Black et White Lodge. Et donc la première Twin Peaks, je pense que là on spoile rien, même s'il y a des gens qui n'ont pas vu le premier Twin Peaks, va se terminer sur un climax terrible qui est le passage dans la Black Lodge de Dale Cooper et la sortie à sa place de son doppelganger. On va faire très gaffe par rapport à saison 3, de pas la spoiler, je sais.
Voilà, attendons un peu
alors,
pour parler
de la, spoil,
de la saison 3.
Pourquoi pas?
Justement, essayons d'inscrire Twin Peaks dans le parcours de Lynch. Comment en est-il venu à faire cette série? Et puis, d'une certaine façon, quelle place elle occupe dans son œuvre déjà antérieure au moment au début des années 90 quand elle est sortie sur les écrans et depuis?
Ouais. Alors, Lynch, déjà, il a un parcours relativement inhabituel puisqu'il a commencé par la peinture et que de la peinture, il est arrivé à un cinéma qui était un cinéma d'abord assez avant-garde, on pourrait dire, pour le premier film, en tout cas via Alphabet, les Six Figures Getting Sick. Il est passé au cinéma avec un premier court-métrage un peu plus narratif qui est The Grandmother et puis Eraserhead. Puis il s'est réarrêté. Lynch a toujours eu besoin de bosser pour vivre et il n'était pas très riche. Donc après Eraserhead, qui est un film vraiment très 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 spécial, mais je crois que les auditeurs n'ont pas besoin que je le rappelle.
Il sort également en DVD.
Chez Potemkin. Et on recommande ce magnifique remaster. Il s'était réarrêté. Il s'était mis à la plomberie, il pensait qu'il referait jamais de cinéma. Bon, en fait,
Il s'était mis à la plomberie.
Et c'est Mel Brooks qui allait le chercher pour Elephant Man. Mel Brooks cherchait un réalisateur pour Elephant Man au niveau scénario, et en voyant des paquets de films, ça, il est tombé sur Eraserhead, il dit, c'est ce type-là qu'il me faut. Et il a raconté ça plein de fois, Mel Brooks, c'est très drôle, il s'est dit, je pensais voir un type qui ressemblait à un tableau de Picasso ou un dessin expressionniste.
Il a vu un plombier.
Il a vu une espèce de James Stewart. Il a vu un mec qui sortait d'un film de Frank Capra, une espèce d'américain, jovial, débonnaire, très droit, un ancien scout, quoi. Et il en revenait pas que c'était ce type-là qui a fait Eraserhead. Lynch avait fait quelques films avant Twin Peaks, évidemment, dont un des plus importants est Blue Velvet. Et il a rencontré Mark Frost, qui va être son co-scénariste et coproducteur pour Twin Peaks, sur l'idée d'un scénario adapté d'une biographie non autorisée de Marilyn Monroe, Goddess de Anthony Summers, si je ne dis pas bêtise. Disponible en français, je me demande même s'il s'appelle pas Les Derniers Jours de Marilyn Monroe. Non, je crois que ça, je confonds avec Laura Palmer. Mais quoi, je l'ai lu en français. Où Marilyn Monroe enquête sur une star déchue. Oh là là, je sais plus. Bref, Goddess.
On vérifie. Déesse. Pas d'inquiétude.
Voilà. Et qui est d'ailleurs un livre absolument sublime, passionnant, avec plein d'anecdotes incroyables sur Marilyn Monroe. Et Frost et Lynch sont allés visiter le biographe dans cette quête-là. Et le biographe a commencé à leur raconter plein d'autres histoires qu'il pouvait pas mettre dans son livre pour des histoires de droit autour de Kennedy, de relations entre les Kennedy et Marilyn Monroe, de la mort de Kennedy. Ils ont commencé à mettre tout ça dans le scénario. C'était bien avant JFK d'Oliver Stone, aucun studio n'a voulu produire ça. Et ils ont commencé à se dire, bon, mais on s'entend bien, on peut peut-être écrire d'autres choses. Donc ils ont commencé à écrire d'autres scénarios. Frost bossait à la télévision sur Hill Street Blues, a eu la possibilité de proposer un pilote de série sur ABC, et là, il a proposé à Lynch de travailler avec lui. Ils ont fait le pilote de Twin Peaks, le pilote a été accepté. Et après, ça a été un phénomène mondial. Lynch est devenu beaucoup plus célèbre mondialement à partir de Twin Peaks qu'avant, il n'y a aucun doute là-dessus.
On peut s'interroger sur cette mondialisation du phénomène, puisque c'est quand même une série absolument improbable et inabordable par tout le temps possible. Ça tient à la fois de la soap-opéra et puis du happening ésotérique. Il y a une sorte de mélange des genres.
Et le burlesque.
Il y a un burlesque.
Et un burlesque qu'on n'avait pas vu à la télévision, même au cinéma, depuis 30 ans, quoi. Oui.
Description, Pacôme.
Là, ce qu'on entend, c'est à la fin du premier épisode de la deuxième saison, c'est une espèce de flashback sur la mort de Laura, enfin le moment où Bob tue Laura et laisse pour morte, alors qu'elle est seulement blessée, Renée Pulaski. C'est Renée Pulaski qui se souvient de ça. On aura deux versions de cet assassinat de Laura Palmer. un dans la série sous la forme du souvenir de Ron Kulaski et évidemment dans le film qui revient sur les 7 derniers jours de Laura Palmer.
Elise Lépine, vous êtes une Twin Peaksienne.
Mais non, moi j'ai pas vu cette série. Mais comme il a dit tout à l'heure, Pacôme, que c'était une série pour les grands malades, je pense que je suis un petit peu obligée maintenant de la regarder.
Voilà, maintenant vous êtes vouée à la voir, Sixtine.
Eh bien moi, comme je disais à Pacôme, et je vais passer pour une hérétique, c'est vrai que je préfère le film Twin Peaks que...
Le film Firewalk With Me. Mais ouais, c'est pas hérétique, moi c'est ce que je préfère au monde, le film Twin Peaks Firewalk With Me.
Ah ouais, je trouve qu'il est incroyablement malsain et ça m'avait beaucoup attiré à l'époque.
Malsain?
Oui, malsain.
Ah, ouais. C'est une question de perspective. Avec un regard purifié, Twin Peaks c'est pas malsain.
Bon, on entendra la purification du regard. En tout cas, ce qui est pas tant à le revoir aujourd'hui, c'est cette espèce de niveau de lecture possible. Il y a effectivement d'abord une enquête criminelle menée dans un petit patelin de province, un peu touristique, par la police fédérale. Bon, ça c'est, là, je dirais, le synopsis de base. Oui. Ensuite, il y a véritablement une réflexion sur les formes du cinéma, les formes de l'image, puisqu'il fait appel à peu près toutes les formes de l'image populaire, depuis le photoroman jusqu'au cinéma pornographique, en passant par le comique, la comédie. Tout est là à peu près. Ouais. C'est un peu le point sur l'image populaire au début des années 90.
Oui, et c'est quelque chose qui est encore redoublé même dans la saison 3, où là, il va carrément y avoir des traitements au niveau des traitements hallucinants, des séquences en noir et blanc qui rappellent Méliès, qui rappellent aussi le cinéma fantastique des années 40, et ensuite à un moment en 56 qui fait très quatrième dimension, des séquences en hommage à Kubrick. C'est hallucinant ce que ça convoque en termes de forme Twin Peaks. Et alors, bon, le premier Twin Peaks, Lynch n'a réalisé que 6-7 épisodes. Il a fait le film, évidemment.
C'est près d'une trentaine.
Voilà, tandis que la saison 3, il a tout réalisé. Mmh. Et elle est encore plus diverse, je dirais, en termes de forme. Et en termes de contenu, c'est à peu près impossible, je crois, pour toutes les personnes qui ont vu la saison 3, de deviner, quand ils ont terminé un épisode, ce qu'il va voir dans l'épisode suivant. Ça va dans tellement de directions possibles que c'est même d'une séquence à l'autre, on peut changer quasiment même de récit complètement, quoi, ailleurs, et de rythme et d'enjeux émotionnels. C'est un sommet à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant.
Alors avant qu'on attaque directement la saison 3, j'évoquais deux niveaux de lecture. Un niveau de lecture, je dirais, purement littéral, événementiel, narratif, le plus simple. Ensuite, un niveau formel, esthétique, inscrire Twin Peaks dans l'histoire d'une réflexion, l'histoire de l'image américaine. Et puis là, il y a le troisième, le soubassement, qui est le vôtre, qui est le soubassement ésotérique, puisqu'il est question de forces qui ne sont pas des forces, ou qui sont des forces naturelles, mais qui sont des forces qui s'affrontent, que ce soit elles soient liées au folklore local, qu'elle soit liée à des malédictions folkloriques, puisque la forêt qui entoure Twin Peaks est réputée être une forêt hantée, que les gens qui vivent à Twin Peaks sont réputés être les héritiers d'une sorte d'histoire un peu lovecraftienne. Il y a aussi un hommage indirect à Lovecraft, c'est-à-dire qu'il y a une malédiction originelle qui continue à se faire sentir dans l'âme et dans le corps des résidents de cette petite bourgade touristique. Et puis il y a les deux loges.
Black Lodge, White Lodge.
Alors là on est au cœur même de la méditation de Lynch, puisqu'il emblématise et il incarne la poussée, le conflit entre les forces bonnes et mauvaises sous forme de lieu. Et là, le moindre détail a son importance.
Oui. Alors, c'est très étrange comment ces choses-là arrivent. C'est-à-dire que dans le deuxième épisode de Twin Peaks, troisième si on compte le pilote, on a un rêve de Cooper. Un rêve qui est un peu plus qu'un rêve. Où on voit une pièce rouge, avec des rideaux rouges, un nain, et un sol en zigzag, et dans lequel Del Cooper, 25 ans plus tard, voit une personne qui est et qui n'est pas à la fois Laura Palmer. Et ensuite, beaucoup plus tard, on commence à parler de la Black Lodge. Et à un moment, on finit par les associer. Et c'est quelque chose qui se passe très souvent chez Lynch, qu'on a un niveau informatif, que ça vienne de lui ou de Mark Frost. Et il y a de fortes chances que Black Lodge vienne de Mark Frost, puisque Mark Frost a fait des romans autour de Conan Doyle et de la théosophie. Mmh. Et que la plupart des éléments de type occultiste ou pop occultiste viennent des romans de Talbot
Golden Dawn.
La Golden Dawn, les romans de Talbot Mundy, qui architecture, The Devil's Guard, qui architecture la seconde saison, puisque The Devil's Guard, c'est un conflit entre deux hommes, l'un qui est le supérieur hiérarchique de l'autre, et la présence des deux loges, White Lodge et Black Lodge, grosse influence. Il y a un des scénaristes d'ailleurs de Twin Peaks qui avait dit que c'est un roman qu'ils avaient tous lu à ce moment-là, le roman de Talbot Mundy, le roman Zanoni de Buller Lytton, bah avec Dweller in the Threshold, le rôdeur sur le seuil, qui va informer un des monologues de Hawk quand il annonce à Cooper sa confrontation avec son doppelganger, l'idée du doppelganger, un univers aussi qui peut toucher Gustav Meyrink par moment à ce niveau-là. Et ces éléments-là qui sont des éléments presque, on va dire, de langage, ou en tout cas des choses qui sont racontées. De l'autre côté, on a ce qu'on voit, et on doit faire les associations. Mais elles sont pas forcément évidentes. Et le grand trouble du spectateur dans Twin Peaks, c'est de devoir arriver à reconnecter ce qui est de l'ordre de l'information et ce qui est de l'ordre de la sensation. Est-ce que les deux se rencontrent ou pas? Est-ce que ce qui est dit et ce qui est vu, fait un ou pas? C'est aussi tout un histoire de miroir, de reflet. Et il y a cette parole de la femme à la bûche dans une des introductions du premier Twin Peaks qui est, le monde est comme un puzzle, l'homme dedans est comme un détective, mais chaque mauvaise interprétation du monde que l'homme fait produit un reflet. Et au bout d'un moment, il vit dans ce reflet. Et ça, c'est des choses qui obsèdent Lynch et qui obsèdent probablement Mark Frost aussi. Et qui fait que le spectateur, en fait, ne sait jamais s'il est en train de regarder véritablement Twin Peaks ou s'il vient de produire un reflet qui est son interprétation de Twin Peaks et qui va finir par vivre à l'intérieur de ce reflet. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la manière dont on regarde Twin Peaks. On peut regarder Twin Peaks, pour chaque spectateur, il y a une manière de regarder Twin Peaks. Ça c'est absolument certain. Il n'y a pas une vision orthodoxe qui serait donnée. Lynch refuse de toute façon surplus d'informations. Mais par contre, la façon dont on le regarde risque de, avoir des conséquences sur notre vie.
Sixtine, vous témoignez. Le fait que ça soit peut-être une série, justement, donc avec un monde ouvert, participe de justement cette ouverture de la fin. Et à ce moment-là, le film, qui moi m'avait du coup beaucoup plus attiré, serait plus clos, puisque c'est un...
En même temps, le film, en fait, fonctionne aussi comme un art poétique, tout le début. Ouais. Au début du film, c'est pour recadrer pour l'auditeur qui n'a pas vu le film. Le film, donc, se situe avant la série.
Avant, voilà.
Et se situe même avant les derniers jours de Laura Palmer, puisqu'on a un groupe de séquences qui se situent un an avant et qui sont une enquête sur une première victime de Bob, Teresa Banks. Mmh. Et là, c'est introduit par David
Bob
Lynch.
Bob étant le génie du mal.
Bob est, exactement, étant une espèce de force qui traverse des corps et à travers lequel il commet des meurtres. Même s'il change pas mal entre le premier Twin Peaks et le deuxième Twin Peaks, la forme qu'il prend en tout cas est très différente, c'est la même idée, c'est Bob. Et dans le film, le début est introduit par Lynch à travers son personnage de Gordon Cole, qui est le supérieur hiérarchique de Dale Cooper. Et là, il présente une séquence à ses agents du FBI, Lil the Dancer, la danseuse, il présente une séquence et eux la décryptent ensuite. Et là, on est vraiment face à une espèce d'art poétique qui va être rejoué au début de la saison 3 où le géant parle à Cooper dans un lieu qu'on peut ou pas interpréter comme la White Lodge. Et il commence à lui dire « Ce que je vais vous dire ne peut pas être dit à haute voix. Ceci ne peut pas être dit à haute voix. This cannot be said aloud now. » Pourtant, il nous donne quelques éléments, mais toute la série, on pourrait dire tout Twin Peaks, ne peut pas être dit à haute voix. Ça n'est que de la suggestion. Et c'est ça qui est d'une force, mais terrible.
Have you seen that penguin? What? You know, the penguin. It's a whisper. It's a
revoir Simone, c'est le nom du groupe, parce qu'on voit apparaître tout au long des épisodes des groupes qui sont plus ou moins produits ou suscités par David Lynch.
Enfin, disons qu'il ressent, dans l'esthétique en tout cas, lui plaît particulièrement. Ça, c'est un truc un peu étrange de la saison 3 Twin Peaks. Là, ça se met à ressembler un peu à Buffy contre les vampires où on avait.
C'est pas pour vous déplaire.
Non, pas du tout. On avait le cratère, là, la boîte de nuit de Buffy contre les vampires où on voyait plein de jeunes groupes et à ce moment-là qui informent quasiment de goûts musicaux des gens qui font la série. Ça, c'est pareil, la Twin Peaks saison 3, on a une flopée de groupes. Bon, le plus beau moment pour moi, en tout cas, chacun a son grand moment, c'est quand Nine Inch Nails joue épisode 8 et fait un espèce de morceau invraisemblable de 7 minutes, 8 minutes, extraordinaire, tout à fait dingue.
Alors, cette saison 3, parlons-en, elle a été diffusée sur les écrans français, elle n'est pas encore disponible en Blu-ray et DVD, mais justement, c'est peut-être le bon moment pour en parler, puisqu'on est dans le souvenir et pas encore dans la revérification. Donc, allons-y pour l'exégèse avec vous, Macomb. On parlait la semaine dernière de Fritz Lang, Diabolique Docteur Mabuse, c'est-à-dire le film qu'il a fait en 1960 en Allemagne, son retour en Allemagne, et il a superposé d'une certaine façon ces deux films, Le Testament du Docteur Mabuse et son dernier Mabuse, au point même qu'il a refait à peu près les mêmes scènes, mais avec un monde différent, qui est, en changeant évidemment techniquement, les voitures ne sont pas les mêmes, mais là, c'est notamment la scène du meurtre au carrefour, il les a superposés d'une certaine façon, on retrouve un autre commissaire, mais qui est toujours le commissaire Lohmann, rien incarné. Et bon, c'est une certaine manière de retravailler son œuvre, de reméditer sur son œuvre, dans le cas de Lang, en montrant grosso modo les choses n'avaient pas vraiment évolué, même si les formes, elles, avaient changé. Là, ce que nous propose Lynch dans la saison 3, Pacôme, c'est on retrouve à peu près le même générique, on retrouve le même lieu, on retrouve les mêmes acteurs, mais avec 25 ans de plus, dans des rôles quasi identiques. Quelle est l'intention, justement, de nous présenter le vieillissement de son casting et la permanence de son décor et d'une certaine façon de ses thèmes?
Alors, c'est très intéressant. J'y avais pas pensé le rapport avec Fritz Lang. Mais oui, il y a un truc. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que la forme de Mabuse change. Et se développe, et là on peut dire aussi la forme de Bob change.
Alors Bob, c'est donc le gros vilain
du mal dans la première Twin Peaks. C'était lié à l'inceste, c'était lié au mal qui se tapit derrière chaque famille bourgeoise, etc. C'était le père Leland qui était habité par l'esprit de Bob. Là, à partir du moment où c'est Cooper, ça change complètement et le mal prend une forme qui est beaucoup plus technologique, beaucoup moins saisissable. Il y a pas de c'est pas la cruauté la question. La question, c'est une espèce d'obsession, de contrôle, de manipulation, une espèce de mal à très grande échelle qui est présenté avec ce personnage de doppelganger de Cooper.
Donc,
qui est son double négatif et qui traverse les États-Unis à la recherche de mystérieuses coordonnées, qui fait travailler un nombre fou de gens là-dessus, qui contrôle partout avec des petits téléphones portables qu'il jette ensuite, et avec une espèce aussi de désynchronisation permanente, ce qui est un des trucs les plus troublants quand on voit la saison 3, c'est à la fois l'obsession sur les nombres, la chronologie, et en même temps le fait que la chronologie est sans cesse perturbée, mais de façon très choquante pour le spectateur. Dire qu'il y a tout le temps des nombres, tout le temps on lui demande de se rappeler d'une suite de chiffres, 253, 315, 430, et de l'autre côté, tout ce qui est de l'ordre du cheminement logique est perturbé. Alors oui, on retrouve évidemment les personnages du premier Twin Peaks vieillis. On voit où ils en sont 25 ans plus tard. On voit surtout une ville qui a vécu une énorme crise. Et ça, c'est un truc qui a traversé le cinéma de Lynch. C'est-à-dire que le cinéma de Lynch, qui était notoirement apolitique, à partir quasiment de Mulholland Drive et de la vision du clochard dans Mulholland Drive, la question de l'extrême pauvreté est devenue un élément central et prend accord Inland Empire, où toute la question de départ d'Inland Empire, c'est la confrontation entre le personnage de Laura Dern, qui est une actrice de Hollywood, et on voit cette gitane au début qui dit « J'habite la petite maison en bas de la colline, vous ne l'avez probablement pas remarqué », et où la question de la pauvreté, et surtout Twin Peaks, dans cette saison 3, chute socialement, je sais pas quoi, économiquement. C'est-à-dire que les personnages sont pauvres. Et ça, c'était nouveau. On voit Dr Jacobi vit dans une caravane. Le parking de caravane prend une place très importante. On voit, il y a énormément de références à ça. Même toutes les séquences dans Las Vegas, on a le personnage joué par Naomi Watts de Jenny E, qui dit « Nous sommes les 99%. » Il y a une espèce de d'écho violent, une espèce de la grande misère qui atteint le monde. Et il y a la misère qui est vue d'un point de vue, on va dire, concret, rationnel, et aussi d'un point de vue d'une sorte d'inquiétude cosmique, c'est-à-dire que une des figures du mal dans le nouveau Twin Peaks, représentée par un groupe de clochards qu'on appelle les Woodsmen, qui sont comme le clochard de Mulholland Drive, qui sont tout noirs, tout sales, tout étranges, et qui sont pas totalement de ce monde, et qui sont comme des types qui, comme des sortes de manipulateurs d'événements, et qui viennent, qui interviennent entre deux mondes, et qui sont une présence extrêmement menaçante, extrêmement angoissante, mais qui est associée en fait au thème général d'un monde qui va vers la misère, la folie, la détresse. C'est une saison 3 qui est bourrée d'éléments très très drôles et d'éléments comiques géniaux,
notamment
tout ce qui concerne le retour de Cooper en Douglas Jones. Je veux pas trop spoiler, mais ouais. Cooper revient, le vrai Cooper, alors que son doppelganger traverse le monde, il revient sous la forme d'un autiste, et qui, comme un personnage de Burlesque, une sorte de Harry Langdon ou de Mr. Chance, Peter Sellers, c'est-à-dire une espèce de simplet. Mais plus que ça, vraiment autiste, qui sait pas comment fonctionnent les choses, et qui a des émotions de très jeune enfant, qui est dans un rapport au plaisir très fort, et quand il est présent, les gens deviennent meilleurs. Il arrive, par sa seule présence complètement aberrante, il travaille dans une agence d'assurance à Las Vegas. Alors on peut imaginer que ce serait le pire, et en fait ça devient un univers à la Capra, univers années 50, avec un bon patron adorable, Bushnell, et toute la société quasiment s'organise autour du Dougie Jones qui les rend meilleurs. Donc il y a toute cette partie assez optimiste et comique et burlesque dans le nouveau Twin Peaks. Et de l'autre côté, il y a tout un tas de parties qui sont beaucoup plus terribles et qui sont beaucoup plus liées à ce que la réalité même est en train de devenir. C'est-à-dire que Twin Peaks se met à quitter le domaine de l'imaginaire pour se rapprocher le plus de la réalité, une réalité terrible.
Quelques mots sur The Art Life, qui sort donc, je le répète, en DVD, qui est un événement France Culture.
Alors, le film de John Guillen, qui est formidable, que j'ai vu un nombre incalculable de fois, est en fait un documentaire sur Lynch, mais qui fonctionne aussi comme une préface de Lynch à ses œuvres. C'est-à-dire qu'il démarre sur le moment où Lynch découvre qu'il a envie d'être un artiste et veut être peintre, et il s'arrête au moment où il a terminé Eraserhead. Ça raconte toute la jeunesse de Lynch. C'est Lynch qui parle, tout seul. C'est le seul mec qui parle. Et il choisit un certain nombre d'anecdotes qu'il raconte, qui informent énormément le spectateur de la façon dont il voit les choses. Et en fait, la façon dont il voit ces événements, dont il raconte ces événements, explique la façon dont il écrit ses films aussi. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il a réduit d'une certaine façon son champ biographique. Il y a très peu d'éléments biographiques classiques. Il y a presque que des scènes. C'est-à-dire qu'il se souvient de scènes quand il était petit. Il voit une femme nue qui sort alors qu'il est quasi bébé avec son ami en train de jouer dans la boue. Et il voit une femme nue qui avance au milieu de la rue alors que le soleil est déclinant. Et ça, c'est déjà une image de Blue Velvet. Il y a tout un tas de scènes qui se souvient, qui sont des instantanées. Moi, ça me fait penser à l'herbier du chaman ou l'herbier du guerrier chez Castaneda, c'est-à-dire réduire sa biographie à un nombre d'événements clés qui définissent une poétique ou qui définissent un art de la guerre.
David Lynch, The Art Life, donc disponible en DVD chez Potemkin. Ojar, un groupe dirigé et produit par Maxime Daoud, un musicien qui accompagne également Forever Pavot ou Adirien Soleiman. Donc c'est une production du label Contour, une musique qu'on retrouve via le minimalisme des arrangements. Eh bien, un art musical qui évoquerait celui d'Eric Satie ou encore de Brian Eno. Thank you. Voilà, vous maintenant, Élise Lépine, avec un lieu un peu lynchien, enfin, j'exagère à peine, comme l'hôtel de Yana Wagner. C'est un peu, on peut dire que ça pourrait se superposer au Great Northern Hotel de...
vous me coincez, je ne l'ai pas vu. Mais sans doute, bien sûr, puisque Twin Peaks, ce sont beaucoup de choses ensemble. Et là, on est plutôt dans un début à la Agatha Christie. On est dans un hôtel dans lequel se sont réfugiés pour une semaine une équipe de tournage de 10 personnes qui a décidé de s'enfermer ici ensemble et qui se retrouve en fait coupée du monde par une tempête. Plus de téléphérique, plus de portable, plus d'électricité. Premier problème, la radio a été sabotée. Et en outre, une femme, une actrice de leur groupe a été assassiné. Ils retrouvent leur corps devant l'hôtel. Qui l'a tué? Alors, impossible d'appeler la police. Ils vont se regrouper pour une semaine coupée du monde dans cet hôtel et ils vont réfléchir auquel d'entre eux a commis le crime. Et donc, en fait, Yana Wagner, qu'on avait remarqué pour ses deux précédents romans des dystopies, Vongo Zero et Le Lac chez Mirobol, qui était formidable, dans lequel elle mettait aussi des gens dans une situation, là c'était la fin du monde, hein, la grippe qui tuait tout le monde. Et là, ils se retrouvent finalement dans cet hôtel avec une personne morte et 9 coupables potentiels, avec un, en plus un intendant qui pourrait aussi être un coupable. Et Yana Wagner, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe au vitriol, en fait, cette bourgeoisie russe de moderne, puisqu'elle va plonger dans le passé de chacun des personnages. Alors, on va, du coup, se retrouver confronté non seulement aux histoires personnelles, mais aussi à l'histoire de la Russie, la fin de l'URSS, et ce que ça a causé dans la vie des gens. Alors, elle va mettre en scène les nouveaux riches, les anciens pauvres, les orphelines qui ont dû se débrouiller pour survivre, qui ensuite sont devenues les femmes de grands magnats de la finance, etc., etc. Et donc, elle a vraiment une écriture, Yana Wagner, qui est extrêmement cynique, extrêmement ironique, extrêmement pointue, et elle va, comment dire, désosser ce groupe de personnes, rentrer dans l'intimité de chacun et essayer de voir qui a tué cette personne. Certes, donc là, on est dans l'héritage d'Agatha Christie, mais également qui a menti à qui a manipulé qui s'est servi des autres pour arriver à ses fins. Finalement, est-ce que quelqu'un aime quelqu'un d'autre dans cette troupe, ou est-ce que tout simplement les gens ne cohabitent que dans le but de se servir les uns des autres pour servir leur propre cause. Voilà, donc c'est un roman qui est à la fois glaçant, d'ailleurs ça se passe dans un endroit terriblement glacé, mais également divertissant, puisqu'il y a cette profondeur de regard sur la nature humaine.
Yana Wagner, L'Hôtel chez Mirobol, édition Jacques Miller, deuxième
Jacques
titre.
Jacques Miller qu'on attendait impatiemment,
bien aimé
puisque
par son premier.
Voilà, Les Infâmes en 2015 avaient sidéré les Polars 2 qu'il avait lu et qui étaient nombreux, et on attendait impatiemment ce Candyland. Alors Candyland, c'est le nom d'un parc d'attractions désaffecté dans la petite ville de Kane en Pennsylvanie, petite ville moribonde qui a été jadis florissante, et deux affaires occupent cette petite ville. D'un côté, 3 enfants ont disparu à Candyland, et de l'autre, une femme, Sadie Gingerich, appelle la police puisque son fils, pense-t-elle, est mort. Et elle le pense parce que son fils revient la hanter, en tout cas elle entend sa voix dans sa tête, et de fait il est mort. Il retrouve son cadavre mangé par un ours après avoir été poignardé par sa petite amie Allison, qui va directement en prison. Et on va se rendre compte que les deux affaires sont liées. Par quel biais? Bien par le biais de la religion, puisque Sadie Gingerich était, jusque dans les années 1980, Amish. Elle faisait partie de cette communauté. Elle l'a quittée au gré d'un événement extrêmement traumatique, extrêmement violent qui s'est abattu sur elle et qui va s'abattre également sur ses 3 enfants. Quelque chose de terrible. Et donc, en fait, Jacques Miller, moi je dis toujours, les bons écrivains de polar ont de bonnes obsessions. Et Jacques Miller, vraiment, elle a des obsessions très intéressantes. Elle est obsédée par la question du pur et de l'impur. C'est-à-dire qu'elle travaille uniquement sur les contrastes. Donc, elle travaille sur cette Amérique puritaine qu'elle décrit avec beaucoup de finesse et en même temps donc ce puritanisme qui marque les êtres, c'est-à-dire il faut être droit, il faut être blanc, il faut être comme neige. Et de l'autre côté, elle s'intéresse aussi à la souillure. Donc il y a cette petite ville de Kane qui est dévastée, qui est pleine de drogués, et puis il y a cette violence qui naît dans cette petite ville, et il y a ces Amish qui sont frappés par une maladie qui s'appelle la maladie du sirop d'érable, ce qui est quand même quelque chose d'étonnant et de drôle, la maladie du sirop d'érable. Et en fait, le sucre est très présent dans ce roman. Sadie Gingerich fabrique des bonbons dans sa petite boutique, la maison en sucre. Et en fait, elle crée ce contraste très violent entre la pureté, le sucre, la douceur de l'enfance et le drame, la violence, la souillure de ce qui arrive et ce qui traumatise cette enfance et ce qui met un terme à cette enfance. Et il y a des comparaisons très étonnantes dans son écriture. En fait, elle crée un genre de courant électrique qui traverse son œuvre, et on est complètement spectateur de cette histoire qui se dessine sous nos yeux, qui est absolument démente, quoi, et qui repose sur cet effet de contraste très violent. Et je dis spectateur à juste titre, on n'est plus des lecteurs. Il y a une dimension spectaculaire dans son écriture. C'est vraiment une auteure à suivre. Jax Miller.
Troisième titre.
Troisième titre, Claire Vaille Watkins, Les Sables de la Margosa, chez Albin Michel. Alors là, on est dans une dystopie, c'est-à-dire dans une histoire de fin du monde. On est en Californie, il fait extrêmement chaud, les maisons sont vides, plus personne n'est là, les gens fuient la chaleur irrespirable. Un couple adopte une petite fille assez étrange, ils essayent de la sauver, ça leur donne envie de partir eux aussi vers des températures plus clémentes. Et en fait, ils vont se confronter à un gourou qui évoque étrangement la figure de Charles Manson, par exemple, hein, ce fameux tueur en série.
Il n'a jamais tué personne,
Manson. Oui, ce fameux manipulateur qui a
les
été
autres.
Le cerveau de ces horribles crimes. Et donc, en fait, non seulement elle pointe du doigt les dérèglements climatiques dont nous sommes finalement responsables, elle le dit, par nos choix de vie et nos choix politiques, mais elle pointe aussi du doigt ces faux prophètes dont finalement, sous la coupe de qui nous tombons bien volontiers, un peu trop volontiers d'ailleurs. Donc c'est un livre très important parce qu'il est très politique et qu'il interroge nos choix et nos décisions personnelles et collectives.
Merci Élise pour ces trois chroniques fermement menées. Et on pourrait revenir à Twin Peaks, Paco, puisqu'il y a le sucre, Twin Peaks, puisque le donut, c'est-à-dire le petit beignet que les Américains engouffrent par millions d'exemplaires chaque jour, est un peu emblématique. Il est présent partout, sur les tables, en consommation, comme décoration, avec les hiboux.
Oui, les sucreries en général, et puis les tartes aux cerises, et puis même dans la saison 3, les gâteaux au chocolat.
Et là,
le sucre, c'est central.
Pardon. On est chez Hansel et Gretel, quoi, vraiment. Ouais. Ah, c'est bien, mon petit enfant, donne-moi ton doigt que je tâte pour voir si je vais te manger. Et ça, c'est formidable, le sucre et la violence mélangés.
Oh, l'ambiguïté du sucre. Paco, il y a des motos dans Twin Peaks.
Ah ça. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans Twin Peaks?
Alors on va terminer avec vous, Sixtine, et cette exposition qui a fait pas mal de un beau ressenti, à beaucoup de bruit à Arles, où on retrouve des composantes de Twin Peaks, c'est-à-dire des motos, des montagnes et des alpages.
Voilà, je vais vous parler de Karl-Heinz Weinberger, donc un nom que vous avez pu effectivement peut-être entendre depuis les dernières rencontres photographiques d'Arles, et qui ont permis l'édition de ce sublime catalogue dont je vous parle aujourd'hui, par Steidl. Donc un nom qui laisse rêveur avec sa consonance quant à l'excentricité du personnage. Et hélas, pour lui, cette germanité a pesé comme la rigueur protestante de la Suisse de l'après-guerre. Il faut mesurer en effet ce que ça a de dramatique d'être un jeune homosexuel quand on est dans les années 20, dans le milieu ouvrier et conservateur de cette Suisse d'après-guerre. C'est ce qui va le conduire à vivre par procuration son émancipation, donc en se servant de son appareil photographique comme agent, disons, de sa satisfaction à la fois sociale et sexuelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Weinberger, ce n'est pas un artiste à proprement parler, dans le sens où il ne s'est pas pensé comme une figure auctoriale qui organise une œuvre, un espèce de créateur d'une cosmogonie, mais plutôt comme s'il était en fait agi lui-même par sa fascination. C'est-à-dire que c'est un collectionneur, un véritable fétichiste, un peu comme les œuvres qu'on a retrouvées de manière posthume de Vivienne Meyer ou d'Henri Dargère, et qui en fait sont des obsessions qui sont comme des icebergs dont la partie immergée est absolument vertigineuse. Donc on commence à parler de lui début 2000 à l'occasion d'une exposition en Suisse, mais il fait toujours pas partie du canon de la photographie suisse, même si à l'époque il a eu un petit succès en publiant dans le magazine Gay Der Kreis, qui était publié à l'international sous le pseudo de Jim. Mais donc il faut attendre sa mort et le legs de son fonds à une fondation donc qui porte son nom aujourd'hui et qui va réorganiser ses archives et proposer donc les diverses expositions qu'on a maintenant.
Okay. qu'est-ce qu'il photographie?
Et voilà, alors
Karl Heinz Weinberger.
On se rend compte à ce moment-là qu'on est devant un document absolument inédit sur l'émergence d'une culture jeune dans la Suisse des années 60, qu'on appelle les Blue Jeans, donc les Bikers et les Hells Angels. Et donc là, c'est un document qui est à la fois donc ni artistique ni historique, mais qui est constitué d'une manière transversale, d'une manière queer. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut le qualifier. Et tout ça part d'un coup de foudre, d'un cri du cœur de cet employé régulier de l'usine Siemens, un magasinier, pour l'expression d'une masculinité puissante, surcodée, une espèce de virilité farouche chez ces jeunes des classes ouvrières qui cherchent finalement à se bricoler une identité en marge du monde adulte. Et lui, l'œil de sa caméra est complètement aimanté par ces espèces de fer à cheval et boulons surdimensionnés qui sanglent en fait les jeans, et ces espèces d'énormes douilles, ces médaillons avec des portraits d'Elvis qui ont été naïvement collés comme montés en sautoir, et dont la map pèse comme par hasard juste devant l'entrejambe du jeune homme qui photographie. Et donc, d'où vient cette fascination, le fait qu'elle ait une couleur finalement si intime et discrète, c'est que en fait, il lie un lien très fort avec ces jeunes gens. Il va les fréquenter, ils vont venir chez lui, il va les héberger, les accompagner, vraisemblablement plus si affinité, puisque on a des vidéos qui étaient présentées à l'exposition qui témoignent de ça. Et il va participer finalement à la constitution du mythe de cette jeunesse et de cette quête un peu romantique qui s'affiche en fait sur les slogans provocateurs qui sont sur les vestes cloutées dans le dos, Highway Devils, mais avec écrit derrière St. Gallen, la ville de Petahouchnock, si on veut un peu, et ses tatouages qui vont être piqués à l'aiguille par des copains, Born to Buy Wild, parce qu'on ne connaît pas très bien l'anglais, donc du coup, ça ne sera jamais Born to Be Wild, mais Born to Buy Wild avec un Y. Et voilà, et pour ceux qui ont la chance d'habiter à Mérignac, vous avez le Mérignac Photographic Festival qui va exposer la section Hells Angels du travail de Weinberger du 5 octobre au 17 décembre. Voilà.
Merci Sixtine, merci chers amis d'avoir été ce soir à Mauvais Genre. Je rappelle les ouvrages dont on a parlé ce soir. Alors effectivement, si vous avez une fascination pour les bikers suisses et pour la splendeur du corps prolétarien, on vous recommande sans plus tarder chez Steidl Karl Heinz Weinberger. David Lynch et Art Life, le DVD sorti chez Potemkin, c'est un événement France Culture. Et puis on attend évidemment avec impatience la sortie en Blu-ray et DVD de la troisième saison de Twin Peaks, l'occasion pour en reparler.
Yes.
Paco, mais pour creuser notre exégèse, je signale également, mais on en parlera bientôt, que le deuxième tome de l'exégèse de Philippe Cadic va où est sorti, j'ai pas la date exacte.
Je crois qu'il sort juste des presses.
Voilà,
en tout cas.
Absolument. En tout cas, ça c'est un événement dont on parlera. Yana Wagner, L'Hôtel, c'est chez Mirobol Édition. Jax Miller, Candyland, chez Flammarion, Ombre Noire. Et Claire Vai Watkins, Les Sables de Lamargosa, c'est chez Albin Michel, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Alain Joubert, Siam Boutata, Claire-Martin Duguerre, Élise Duchesnay, Sixtine Audebert, Élise Lépine, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On ne quittera pas, et pas comptiellement, bien évidemment. J'allais l'oublier. On se retrouve la semaine prochaine pour chanter une fois de plus la gloire de la culture prolétarienne. Il sera question du centenaire de la Révolution d'octobre, de science-fiction, et je recevrai Patrice Lajoie. On ne quitte pas l'antenne de France Culture et on retrouve les archives de l'année 67. Bonne nuit à tous.